Chapitre 28. Le roi nous accueille, vêtu d'un magnifique manteau de pourpre et d'hermine. Ah, voilà mes sujets. Il éclate de rire, visiblement fier de sa plaisanterie. Il est si petit que son manteau traîne par terre. Ses épaules carrées sont ornées d'étoiles. Approchez-vous pour que je vous voie mieux, dit encore Isard Ier. Nous obéissons. Il a posé la couronne sur sa tête. Elle est trop grande et tombe sur ses yeux. Mais ce qu'il lui reste de visage me rappelle quelque chose. Un souvenir. Une impression de déjà-vu que je n'arrive pas à définir. « Vous avez fait un long voyage, » continue le roi. « Vous pourriez bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. » Il éclate encore de rire. « Je plaisante, mes amis, je plaisante. Il faut bien s'amuser entre amis de Saint-Exupéry. » Il désigne les chaises. « Je vous ordonne de vous asseoir. Et si vous me demandez, comme il se doit, sur quoi je règne sur cette île, je vous réponds évidemment sur tout. » Nous nous asseyons. Isard Ier prend place sur son trône. Andy n'a pas spécialement l'air de vouloir continuer de jouer la scène. « Et si nous parlions du Club 612 ?» Le roi prend un temps de réflexion. « Bien sûr. C'est ce qui vous amène sur cette île. Je comprends. L'Herminie n'est pas coupée du monde. Je suis informé de votre quête. Comment vont Oko, Marie-Swan, Moïsès et Oshi ? Il y a si longtemps que je les ai vus. Nous nous réunissions souvent dans mon château. C'est moi qui invitais, qui hébergeais. Le protocole l'exigeait. Je suis tout de même la première planète visitée par le petit prince. Nous restions dans mon palais pendant quelques jours, avec les membres du club 612, à discuter du petit prince, à mettre en commun nos indices, à échafauder toutes les hypothèses. Papa, le fondateur du royaume d'Herminie, aurait été si fier de moi. Andy l'est moins.
Nous venons de quitter Moïsès. Lui n'a pas l'air très fier de lui. Il nous a avoué que votre club 612 n'avait rien trouvé.
Le regard d'Isard se perd au mur, dans les paysages de dunes et de cratères. Au contraire, les travaux du club 612 aboutissent à une conclusion précise, une conclusion que la plupart des membres, et Moïsès en particulier, ont eu du mal à admettre. Mais c'est la seule vérité.
Laquelle ? S'écrie Andy en se redressant d'un bond sur sa chaise.
« Le plus dur est de se juger soi-même, » lui répond le roi. « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » La détective stagiaire de la Fox Company lisse à nouveau son visage, du museau aux oreilles, concentrée. « J'aime toujours autant quand mon petit renard se déguise en charpet. »«
D'accord, Majesté. Moi aussi je connais les répliques. Mais quelle est cette vérité ?»
Saint-Exupéry s'est jugé lui-même.
C'est-à-dire, s'agace Andy, soyez plus clair. Nous recherchons une réponse précise. Qui a tué le petit prince? Qui a tué Saint-Exupéry?
Isard Ier essaye de relever la couronne sur sa tête. Elle retombe aussitôt. C'est pourtant limpide, clarifie le roi. C'est le petit prince qui a tué le petit prince. Et c'est Saint-Exupéry qui a tué Saint-Exupéry. Saint-Exupéry s'est suicidé. Et dans Le Petit Prince, il annonce au monde qu'il va se suicider. Son testament spirituel, c'est son adieu.
Waouh ! Fait simplement Andy. Je peux m'approcher de vous ?
Andy approche sa chaise du trône d'Isard. J'en fais de même en continuant de me concentrer sur le visage de ce roi, sans parvenir à chasser cette troublante impression. J'ai déjà croisé plusieurs fois chacune de ses expressions.
Où ? Quand ?
Isard s'enfonce profondément dans son trône, beaucoup trop grand pour lui, avant de commencer son récit. Oko, Swan ou Moïsès ne voulaient pas me croire. Pourtant, tout prouve que Saint-Exupéry, pendant les derniers mois de sa vie, à partir de 1943 et de la publication du Little Prince, était profondément déprimé.
Il suffit de lire ses dernières lettres pour mesurer sa tristesse sans fond. Il haïssait son époque où l'homme devient bétail, doux, poli et tranquille. Ses amis de l'aéropostale sont tous morts en vol. Mermoz, qui effectue son dernier vol, curieusement, le 6-12-1936, et surtout son vieux complice Guillaumet, quelques mois avant le début de l'écriture du Petit Prince. Dans les semaines qui précèdent sa disparition, Saint-Ex écrit « Ça m'est bien égal d'être tué en guerre. De ce que j'ai aimé, que restera-t-il » À sa maîtresse, Nelly de Vauguet, il avoue, entre deux petits princes griffonnés, « Je voudrais bien me reposer. Être jardinier parmi les légumes. Ou être mort. Je ne peux plus vivre dans cette misère. » À Sylvia Hamilton, en même temps que son manuscrit, il offre un dessin inédit du Petit Prince pendu à une potence plantée dans la terre. Il exécute ses dernières missions aériennes militaires, plus dangereuses les unes que les autres, avec désinvolture et détachement. Ses supérieurs veulent l'empêcher de voler, en lui révélant les projets de débarquement en Provence, mais il refuse.
Andy se trémousse sur sa chaise. « Ok, je sais tout ça. Justement, puisque Saint-Ex prenait des risques inconsidérés, il peut avoir été abattu par un avion allemand. »
Isard Dodeline de la tête, convaincu de sa théorie.
Mais non d'un baobab. Où ai-je déjà vu ce regard à la fois sérieux et ironique? Ses gestes théâtraux et ses froncements de sourcils.
Ce serait une bien étrange coïncidence. Vous ne trouvez pas, mademoiselle? Être abattu le jour de son dernier vol, le 31 juillet, sachant que Saint-Ex était au courant que le soir même, les généraux lui interdiraient à jamais de voler. Sans oublier la préméditation, charmante citoyenne, la mise en scène, les deux dernières lettres posées en évidence sur son bureau, comme un testament, alors que sa mission de reconnaissance du 31 juillet était a priori bien moins dangereuse que celles effectuées les semaines précédentes. La lettre à son ami Pierre Dalloz. Quelle solitude spirituelle. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. Et celle à Nelly. J'ai failli quatre fois y rester. Cela m'est vertigineusement indifférent. La mort lui est vertigineusement indifférente.
N'empêche, s'entête Andy, chercher à se faire tuer, ce n'est pas la même chose que se tuer.
Isard s'agite sur son trône, ravi d'avoir trouvé une compagne de discussion.
C'est ce que prétendait aussi Swan et Oko. Et comme par hasard, Saint-Ex aurait croisé son bourreau dans le ciel le jour où il l'espérait. Et que faire du témoignage de ce pêcheur, en 2004, qui affirme avoir vu, le 31 juillet 1944, à midi, au large de l'île de Rio, un avion s'écraser en mer? Un avion ressemblant au P-38 de Saint-Exupéry. Un avion seul, qui pique tout droit vers la mer, sans aucun avion allemand autour.
Je connais ce témoignage. Le pêcheur avait 17 ans. Il a raconté ça 60 ans plus tard.
Une fois la fameuse gourmette retrouvée, alors seulement il a fait le rapprochement. Et douce enfant, que pensez-vous de ce passage des « Mémoires de la Rose » où Consuelo raconte comment, après que son Tonio ait été repêché quasiment mort de son accident d'hydravion en Méditerranée, il lui explique en détail « C'est facile de mourir noyé. »
J'ai l'impression qu'Andy va bouder.
Elle croise les bras.
Enfin, elle cède. Ok. Saint-Ex a peut-être tué Saint-Ex. Mais rien ne dit que le Petit Prince a tué le Petit Prince.
Isard a gagné.
Si l'on admet que Saint-Exupéry s'est suicidé, alors il devient évident que le Petit Prince est son double qui l'annonçait. Il demande au serpent de le mordre, comme on s'injecte un poison dans le sang. Vous connaissez chaque mot de ce conte par cœur, mon enfant. Mais écoutez plutôt ce passage de ces « Lettres à une inconnue », écrites en Algérie, en 43, quelques semaines après la parution du Little Prince, où il se dessine en petit prince, où il ne forme plus qu'un avec son petit héros.
Il n'y a pas de petit prince aujourd'hui, ni jamais.
Le petit prince est mort. Il n'y aura plus de lettres non plus, ni de téléphone, ni de signe. Voilà que je me suis blessé au rosier en cueillant une rose. Le rosier dira « Quelle importance avais-je pour vous ?» Aucune, rosier, aucune. Rien n'a d'importance dans la vie, même pas la vie. Adieu, rosier. Andy semble vaincu par Kao. Adieu, rosier. Izar insiste pourtant. Le petit prince n'offre pas de réponse. Saint-Ex ne les a pas trouvés. Il ne les trouvera jamais. Il ira au sacrifice, à la guerre, à la mort, convaincu d'y trouver la réponse qu'il n'y trouve pas. Andy ferme les yeux. Elle paraît répéter ses derniers mots dans sa tête. « Qui a écrit cela ? Vous, Majesté ?»«
Non, une amie de Saint-Ex. Anne Moreau Lindbergh, la femme du célèbre aviateur. Elle fut l'une des premières à lire le Little Prince.
Et la première à en deviner le sens ?»«
Oui. »
Le Petit Prince n'est pas un livre pour enfants. C'est le témoignage d'un grand poète face à la solitude de l'univers tout entier.
C'est de vous cette fois ?
Toujours pas. C'est la préface du philosophe Martin Heidegger, pour l'édition allemande en 1949. Il affirmait que Le Petit Prince était son livre préféré.
La jeune détective sort sa feuille de papier, la pose sur ses genoux, rature la ligne précédente. C'est la rose qui a tué le petit prince. Et note, le petit prince a tué le petit prince, Saint-Exupéry a tué Saint-Exupéry.
Izar Ier se lève enfin.
Il est vraiment tout petit. J'ai l'impression qu'il va se prendre les pieds dans son manteau d'hermine.
Vous devez être épuisé. Je vais demander à mon majordome de vous conduire à vos chambres. Je vous ai fait préparer la suite royale.
Le roi sonne à une cloche accrochée à un ruban et attend.
Personne.
Ressonne.
Toujours personne.
Ressonne.
Grogne. Puis sort de la salle du trône et ronchonne.
Nous attendons quelques minutes avant que n'entre le majordome, toujours aussi barbu, raide et impeccablement habillé. Un seul détail détonne, et il porte sa perruque grise à l'envers. Immédiatement, mon cerveau reconstitue toutes les pièces du puzzle. Le douanier moustachu, le chauffeur aux lunettes de soleil, le majordome barbu, le roi couronné.
Tous petits et trapus. J'ai enfin compris. Tous ne forment qu'une seule et même personne.
Je me tourne vers Andy pendant que le majordome réajuste ses cheveux.
Elle aussi a réalisé. Izar Ier vit seul sur son île. Il est l'unique habitant de son royaume de pacotille.